bonjour. Donc bonjour, bonjour, bonjour.
1, 2, 1, 2, 3.
Là, il y a de la mousse qui a enlevé.
3, 2, 1, c'est parti.
5 guignets. Au pluriel.
Donc vous êtes toujours à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue et rfpp.net et partout dans le monde. Aujourd'hui on est avec Bénédicte. Bonjour Bénédicte.
Bonjour.
On est avec Brooke.
Bonjour.
Alors Brooke qu'on reçoit pour la troisième fois, pas dans cette émission parce qu'on l'avait reçu dans l'émission RESF, et on attend donc on attend Madassa qui devrait arriver dans quelques minutes mais qui est un petit peu coincée dans le métro. Donc je propose qu'on réécoute un petit peu Jean-Philippe Riquel et les frères Cissé avant de commencer vraiment dans cette émission, et ça nous mettra un petit peu dans l'ambiance de ce qu'on veut faire.
Le mel la sala ngana choro khana sha gentrindi agana bono khana sha gentrindi bido koy malme tamboni mai soro ngana ko nan dikeme manyare manyam sare soro ngana duare mengna sara metamdo filo nyana
amma gare ko
shoni ko gamborum fayi
jatana debe kume jatana bakari
Bakar Jule, c'est Zagari.
Angaza.
Ogamu kuno kishmani do fa vanuji.
Ewa na muwanteni kana bambaro.
Hore kana nyenge banatanu anna ko sanjamu mu kasarundo jarum maga.
Wajibi.
Na utukilikil duna daru anna lawar lengi. Shafungu kasarum maga shafungu jarum maga. Ogi kono horon nang yuba duna kin nyeroi yarni timindo sigu mor fu tangem batte ko de ade maje talu el mani shire samba demba al mutar shahlwara mutar shire samba demba al mutar shahlwara ngar de ngar alhamdulillah ngar shar banjing kan ngar jina makambu kudi kien chrondi nawti kilikiem bugu nokun na lawara khon nokundi sigu mor fu ti adire mund duna mara. Takai ota wontongo shoni ngolle munanga
angaza
girma gado kajaga do haire futa jombogo karta khanyaga.
Donc vous êtes à l'écoute de Singulier au pluriel sur FPP. Alors avant d'entrer dans le vif de notre émission, hein, puisqu'on va parler donc du troisième album de Brooke qui s'appelle Liberté de circuler, hein, qui fait la suite de Ici on broie du noir et Ici on broie du noir. Le premier, pardon, c'était Voyage au bout de l'envers et Ici on broie du noir. Donc maintenant c'est Liberté de circuler, mais avant quand même quelques petites informations, notamment concernant Ceuta 12 prisons et Guy et Jonathan. Donc pour Guy, eh bien, je viens d'apprendre que Guy a reçu un passeport, hein, qui est un peu particulier, très symbolique, à l'UNESCO, qui s'appelle le passeport de la citoyenneté universelle. Bénédicte, tu connais un petit peu ce passeport de la citoyenneté universelle?
Je viens d'en entendre parler il n'y a pas très longtemps, et en effet j'ai trouvé ça très intéressant. Je sais que il va y avoir une première liste de différents personnages, personnes et personnalités. Et je pense que c'est important, cette idée, voilà, et qu'il faut poursuivre sur cette voie, parce qu'après tout, nous sommes tous citoyens universels.
Voilà, donc on en reparlera. Pour l'instant, donc, ça donne la possibilité à Guy de pouvoir entrer dans une vingtaine de pays, qui sont la vingtaine de pays, je ne donnerai pas la liste maintenant, qui reconnaissent cette citoyenneté universelle. Le problème, c'est qu'il ne pourrait pas rentrer en France après, puisque on ne reconnaît pas encore ici la citoyenneté universelle. Et puis, donc, toujours à propos de Ceuta 12 prisons, mais là, c'est donc le nouveau film de Jonathan Millay, hein, c'est une fiction qui s'appelle All Love Desert. Eh bien, All Love Desert est en compétition au festival Côté Court de Pantin. Et donc, là, il y a trois projections à venir, hein, C'est le samedi 8 juin à 14h, le lundi 10 juin à 22h et le 13 juin à 20h. Et le festival donc se tient au Ciné 104, 104 avenue Jean Jolive à Pantin. Donc voilà. Et puis je voulais aussi quand même mentionner la sortie d'un très bel, album qui s'appelle Demain je reviendrai de Karine Epenois et Séverine Blondel-Salomon et qui est paru aux éditions du Poisson Soluble et qui est vendu notamment en soutien à RESF du Doubs. Voilà, donc pour nos petites annonces quand même, mais ce bouquin est vraiment superbe, hein. Demain je reviendrai, c'est un bouquin à lire et c'est un bouquin qui a été d'ailleurs censuré par le Conseil Général du Doubs en 2008, hein, mais on en reparlera très très bientôt. Donc on va tout de suite revenir à notre sujet, hein, qui est ce troisième album, hein, Liberté de circuler. Alors Bénédicte, tu veux peut-être nous en parler un petit peu avant de donner la parole à l'auteur, parce que tu es un peu une des instigatrices, est-ce que c'est le mot, du projet du...
Oui et non. En fait, ça s'est passé naturellement. Il se trouve qu'il y avait donc un piquet de grève, qui était le piquet historique du mouvement des travailleurs sans papier en grève. Eux, ils avaient démarré leur grève en 2008. Et ils étaient là depuis longtemps. Et Brooke, qui avait commencé à faire des dessins sur ce mouvement, est passé sur ce piquet. Et il a fait un dessin du piquet avec certains des grévistes qui étaient là. Et comme un des gros problèmes, c'était de remplir les caisses de solidarité pour que les grévistes puissent tenir le coup, on a demandé à Brooke si on pouvait faire une affiche de ce dessin. Il a donné son accord, il a dit qu'il donnait tous ses droits et que cette affiche pouvait être vendue pour la caisse de solidarité du piquet des grévistes du 12e. Et c'est ce qui s'est fait, et cette affiche s'est vendue à des centaines et des centaines d'exemplaires sur le quartier et dans Paris en général, mais particulièrement sur le 12e. Et ça a permis de véritablement bien contribuer à la caisse de solidarité. Entre-temps, Brooke est revenu plusieurs fois. Il s'est lié d'amitié avec les grévistes, avec les gens du comité de soutien. Et puis, quand j'ai vu qu'il avait plein de dessins, en parlant avec lui, j'ai dit, mais en fait, tu es en train de faire un témoignage incroyable sur l'ensemble de ce mouvement. Il faudrait vraiment en faire une brochure, un bouquin, quelque chose. Voilà, c'est parti comme ça. Premier bouquin, Voyage au bout de l'envers. Et pareil, il a donné la possibilité au comité de soutien et à l'ensemble des comités de soutien des grévistes de vendre cette BD en soutien aux caisses de solidarité. Voilà, une fois que les frais courants étaient couverts. Et c'est pareil, on en a vendu énormément. Lui, il a continué. Et donc, on lui a tous dit, bon, et alors, la deuxième BD, quand est-ce qu'elle arrive? La deuxième, c'était Ici, on broie du noir. Voilà. Entre-temps, la grève s'est plus ou moins arrêtée. Les grévistes du 12e, je tiens à le rappeler, ont tous été régularisés. Après 2 ans de grève, quand même, c'est pas rien. Et voilà. Et puis, les grévistes ont commencé, une fois qu'ils avaient leur titre de séjour, les grévistes du 12e, à pouvoir enfin rentrer au pays. Après des années et des années passées en France, enfermées en France, finalement, du manque de titre de séjour et donc ne pouvant pas voyager. Et l'un des principaux délégués du piquet de grève du 12e, avait donc décidé de rentrer pour la première fois après 11 ans d'absence, à peu près un an après sa première régularisation. Il était devenu assez copain avec Brooke et inversement. Et puis j'ai vu que Madassa préparait toute la mémoire de sa lutte pour la ramener au village. Il avait ramassé tous les tracts, il avait ramassé tous les films, les vidéos, les films qu'on avait fait sur le mouvement, les autres films qui pouvaient exister, qu'on avait distribués en DVD, des tas de photos. Enfin, il repartait avec toute la mémoire de cette lutte, de cette grève, de son histoire, et celle du piquet, et celle des grévistes, et celle de l'ensemble des travailleurs sans papier en France. Et d'un seul coup, voilà, ça fait tilt. Et je me suis dit, lui va partir là-bas, il va raconter ça. En même temps, nous, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. On ne connaît pas véritablement. On en entend parler par les grévistes à force de les côtoyer, de leurs familles, de leurs femmes, de leurs enfants, de leur village. Mais c'est très abstrait. Et donc, pourquoi est-ce qu'après tout, si Madassa est d'accord et si Brooke est partant, pourquoi ne pas imaginer de faire le tour de la question et de faire un troisième album? Voilà, ils partent tous les deux et puis Brooke reviendra forcément avec un récit et c'est ce qui s'est passé.
Voilà, donc Brooke, toi tu pars donc troisième volume qui s'appelle Liberté de circuler. Les deux premières, c'est plus sur la... enfin, j'ai l'impression moi que le point de vue, l'angle, c'est une mémoire de la lutte et la lutte. On croise plein de personnages dans les deux albums, mais le personnage principal, c'est quand même la lutte.
Oui, les deux premiers albums sont vraiment des témoignages dessinés, enfin sous la forme de reportage, contrairement au troisième. Mais finalement, c'est aussi une continuité parce que Bénédicte ayant proposé ce projet, je devais me tenir tout de même à garder ce thème-là, c'est-à-dire pourquoi les migrants quittent leur pays, pourquoi ils reviennent, alors ils viennent de quelle région, etc. Enfin, dire que c'était toujours quand même des questions en suspens. Moi, quand je rencontrais les Maliens, notamment sur les piquets de grève ou dans les occupations d'usines, etc., je ne connaissais pas vraiment... Enfin, j'avais entendu parler de certains parcours, etc., un peu comme tout le monde, quoi. Mais finalement, moi, ça, c'était effectivement une apogée pour moi, candide dessinateur, parce que moi, je rappelle à chaque fois que je ne suis pas vraiment un militant. J'ai côtoyé des militants, je côtoie des militants, mais je suis surtout un dessinateur qui est intéressé par ce sujet-là.
Tu n'es pas un militant, c'est sûr. Tu fais une affiche et tu fais deux albums qui permettent aux piquets de grève de tenir. Parce que deux ans sans bosser, j'allais dire, ça coûte cher. Et en plus, en continuant à pouvoir envoyer, faire vivre la famille comme on monte. Mais d'accord.
Moi, je ne l'ai pas provoqué. En fait, c'est Bénédicte et puis le collectif 12 pour les droits des étrangers qui ont eu ces idées-là. En fait, c'est ceux qui ont eu les idées du mode de diffusion qui sont réellement efficaces. Moi, je vais à l'instinct. Et puis, comme Bénédicte m'avait proposé d'y aller, moi, j'avais pas mal voyagé, mais jamais en Afrique. Donc, c'était une occasion aussi pour moi. Et moi, je dois avouer aussi que je me suis permis, avec un certain risque quand même, de considérer cet album, là, Liberté de circuler, comme un compte-rendu graphique et textuel de ce voyage-là, mais à ma sauce.
Ouais.
C'est ça qui est un petit peu original, d'ailleurs. Finalement, c'est une commande demandée par le collectif 12 en me proposant d'y aller pour faire un témoignage aussi sur ce retour et en même temps essayer de glaner le maximum de d'interview entre guillemets de migrants qui étaient rentrés définitivement ou qui faisaient comme Madassa, c'est qui rentraient pour les vacances, quoi. Et donc moi j'en ai profité pour découvrir ça, et en même temps ce que j'ai ramené est un compte rendu graphique de ce que j'ai vécu, sans avoir du tout évidemment la prétention de savoir ce qui se passe vraiment partout au Mali ou de connaître le Mali. Moi je connais pas le Mali, je suis resté 3 semaines là-bas, hein. Mais c'est vrai que ça reste un bouquin quand même personnel.
C'est un bouquin personnel, en même temps, c'est des choses que tu as vues, que tu as entendues, que tu as dessinées. Bon, quelque part, c'est plus personnel que de la photo, mais tu as autant de détails et autant de choses qui sont vues. Donc, c'est quand même un bouquin qui est vachement intéressant, parce qu'en plus, tu soulèves un certain nombre de problèmes ou un certain nombre de questions. En n'y apportant pas des réponses, mais en tout cas, il y a des questions qui se posent et que tu poses.
C'est vrai qu'en même temps, moi j'ai conscience que j'ai dû me tromper sur pas mal de sujets, etc. Mais en même temps, le droit de se tromper faisait partie aussi de ma démarche, en fait. Parce que donc les deux premiers recueils de reportages ont circulé beaucoup dans le milieu militant. Et celui-là, moi je me suis dit peut-être que ça peut intéresser des gens qui ne connaissent absolument pas la lutte des migrants et qui ne connaissent pas le parcours des migrants. Donc ça peut permettre à certaines personnes de d'essayer de comprendre pourquoi ils croisent le Malien dans le bus, pourquoi ils sont dans un foyer, etc. Donc j'ai touché un petit peu à tous ces sujets-là. Évidemment, moi, je ne suis pas un anthropologue, hein, donc c'est assez limité. Moi, je reste un... c'est un petit peu... bon, c'est mon grain de sel aussi, moi, parce que comme j'ai des idées politiques aussi, donc moi, je les mets. Et effectivement, j'ai respecté quand même le thème général, c'est-à-dire que essayer de comprendre pourquoi tant de Maliens venaient depuis 50 ans en France et pourquoi, malgré les difficultés invraisemblables pour obtenir ces papiers actuellement, encore des jeunes dans les villages veulent venir. Donc c'est ça, quoi. J'ai découvert en même temps, j'ai découvert ça.
Voilà. Et donc, à travers ce... Donc, dans ce... Il y a le voyage et en même temps, tu suis Madassa. Quand je parlais de personnages... Le personnage principal des deux autres albums, c'est la lutte. Et là, cet album, il commence sur des planches de l'album précédent, et où ensuite, donc, on voit Madassa. On commence dans l'album précédent. Madassa est un personnage qui est important dans les albums. Mais et là, on reprend les planches avec Madassa, l'histoire de Madassa, et ça continue sur l'histoire de Madassa avec les planches de l'album précédent ou avec des planches de l'album précédent. Et
voilà, enfin, c'était une façon d'introduire ce pourquoi on parle de ce voyage-là. Et effectivement, Madassa était dans quelques reportages dessinés dans les deux premiers recueils, mais c'était pas un personnage principal. C'est-à-dire que la lutte, c'était ça qui était important de raconter dans les deux premiers recueils. Mais là, il devenait le porte-parole, même si c'est lourd à porter, c'est pas évident parce que c'était peut-être pas forcément son but, mais dans le jeu graphique et de l'histoire, il devenait un symbole du retour au pays après avoir réussi, entre guillemets.
Après avoir réussi, oui. et on voit dans quelles conditions il a réussi, mais ça j'espère qu'il le racontera lui-même dès qu'il arrive, je pense qu'il devrait arriver incessamment sous peu. Et donc avant qu'il arrive, peut-être tu disais donc depuis 50 ans, et justement il y a 50 ans exactement, en 1963, à Caille, puisque quand même tout se passe dans la région de Caille au Mali et autour où on peut aller... un petit peu au Sénégal, un petit peu en Mauritanie, mais c'est la même région. Hein, et il y a Boubacar Traoré, qui était musicien, qui a longtemps, très très longtemps vécu à Montreuil d'ailleurs, et qui a composé une chanson donc en 1963 qui s'appelle Caille Bas, et justement à propos de l'immigration, et qui met, alors que lui-même est parti à Montreuil, qui met en garde les candidats à l'immigration. Donc, on peut écouter Caïbar en attendant Madassa. Hein, c'était, et ça a été enregistré en 1963. Thank you. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net pour nous écouter bien à Caille. Je suppose qu'on doit avoir une connexion internet suffisamment rapide à Caille, donc on peut nous écouter à Caille sur http://rfpp.net ou à Dakar, à Bamako ou à Mourmelon, enfin n'importe où, hein, si... Et 106.3, c'est seulement pour Paris et proche banlieue. Donc, on continue à parler avec Bénédicte et Brooke de l'album Liberté de circuler. Et Madassa est en chemin. Hein, donc, il vient de nous appeler pour nous dire exactement où il était. Donc, on va continuer quand même à parler un petit peu de ce... Enfin, pas un petit peu, complètement, de ce recueil, hein, ce voyage. Donc, peut-être, Brooke, tu peux nous dire quelles ont été tes... Bon, tu nous disais hors antenne, pendant qu'on écoutait la musique... que c'était la continuité d'une lutte. Et il y a une chose qui est vachement importante aussi, et que montre bien ce bouquin, ce recueil, c'est que quand on n'a pas de papier, on est coincé, on ne part pas, on ne bouge pas. Alors qu'on ne donne pas de papier pour que les gens ne viennent pas, mais en fait, le fait de ne pas avoir de papier, ça n'empêche pas les gens de venir, ça les empêche de repartir.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, avoir ces papiers, c'est de démarrer sa vie, quoi, en tant que migrant, évidemment. Et du coup, c'est démarrer sa vie aussi au Mali. Là, c'est assez compliqué parce qu'en fait, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, Madassa est rentré pour s'installer dans sa nouvelle maison là-bas. Mm-hmm. Ça faisait 11 ans qu'il n'était pas rentré au pays, mais il envoyait de l'argent pour la construction au fur et à mesure de l'envoi de l'argent. Enfin, ça, c'est Madassa qui va raconter ça, hein, mais je veux dire, en fait, le fait d'avoir ses papiers. Il pouvait enclencher l'espoir de fonder une famille et de s'installer, pas forcément définitivement, mais au moins pour les 2-3 mois, dans l'espoir d'y aller régulièrement, évidemment. Hein, tout ça peut changer aussi. Mais disons, l'un des buts, quand même, en général, d'un migrant malien, c'est ce que j'ai appris, hein, moi, c'est de fonder une famille au pays tout en continuant à bosser ici.
Ouais.
Alors évidemment, il y a plein de cas différents. Hein.
Donc, il y a autant d'histoires différentes que de personnes. Mais...
Oui, oui, mais ça, moi, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est... au fond, c'est un double enfermement parce que la personne sans papier, qui est forcément un travailleur ou une travailleuse, parce que je ne vois pas comment on peut faire autrement pour vivre en France si on ne travaille pas, est doublement enfermée. C'est-à-dire qu'elle est enfermée en France parce qu'elle est obligée de raser les murs et de se faire discrète et d'accepter un travail au noir ou des conditions très difficiles, enfin, et de vivre dans la peur. Mais en même temps, elle est enfermée en France. Effectivement, elle ne peut plus du tout repartir chez elle. Et ça peut durer des années et des années. Il y a des gens qui ne sont pas retournés dans leur pays d'origine, retrouver leur famille directe, proche, depuis 10, 15, 20 ans. Enfin, c'est fou, quoi. On ne se rend pas compte des conséquences humaines, à quel point c'est dur. Voilà. Et donc, Madassa, quand il est rentré, évidemment, il est rentré comme un travailleur régularisé qui a donc réussi, entre guillemets. C'est pour ça que quand on est expulsé, c'est encore une double peine. Parce que non seulement on est expulsé, on est jeté comme un malpropre dans des conditions très violentes, mais quand on arrive au pays, pour la famille, on n'a pas réussi, on n'a pas rempli sa mission. Et ça, c'est terrible. Et l'Association malienne des expulsés que Brooke a rencontrée, Madassa est allée parler, raconter son expérience de lutte, de grève. Et cet album va être envoyé à l'Association malienne des expulsés. On en envoie, je ne sais plus combien d'exemplaires, j'ai oublié. Mais c'était un des buts de faire ce livre aussi, pour faire connaître la situation des immigrés en France au Mali. Parce qu'il y a des fantasmes, évidemment, sur leur situation ici. Mais l'Association malienne des expulsés, donc, accueille les expulsés qui sont souvent abandonnés, qui se retrouvent donc, voilà, à l'aéroport. Et ils les accueillent, ils les abritent, ils leur permettent de se reconstruire. Et éventuellement, s'ils ne peuvent pas renouer avec leur famille, retourner dans leur village, parce qu'il peut arriver qu'ils soient en quelque sorte bannis, eh bien, voilà, de reconstruire encore une autre vie après cet échec-là.
Voilà, parce que l'expulsion, c'est quand même quelque chose qui est traumatisant à plein de niveaux. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît dans l'album. C'est que, en fait, la famille, elle va miser sur la personne. Hein, c'est, quand on dit que c'est les plus pauvres qui partent, c'est pas vrai. C'est pas les plus pauvres, c'est les gens qui ont les moyens et qui sont dans un milieu qui a les moyens de payer le voyage. De payer le voyage, on voit dans l'album ce que coûte un visa. C'est devenu une denrée tellement rare que est-ce que coûte le visa? Alors ça, on voit pas de cas de corruption à l'ambassade de France. Je ne sais pas si l'ambassade de France est corrompue à Bamako, mais j'ai eu plusieurs cas d'ambassade de France où le visa, il y avait le coût du visa plus qu'il fallait, là où il fallait soudoyer le planton à l'ambassade pour pouvoir avoir le visa, ça remontait à ça venait très très cher. Que le visa soit accepté, accordé ou pas, l'argent, et c'est quand même en centaines d'euros, de toute façon est perdu et gardé par l'ambassade. Ensuite, il faut éventuellement, si on n'a pas de papier, avoir un autre passeport. Et donc, c'est un voyage qui coûte infiniment plus cher que ce que va coûter que le même voyage fait par un touriste qui pourtant a beaucoup plus de moyens. Donc ça c'est une chose à laquelle qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est le coût réel du voyage est bien supérieur. Quand la personne ensuite, si la personne est expulsée, elle va avoir à rembourser. C'est des dettes, c'est les dettes pour toute la famille, alors que tout le monde avait misé. Bon, il faut que tu ramènes des sous. Et c'est un truc qui est foutu et c'est une catastrophe. Ça apparaît, donc c'est quelque chose qu'on voit bien avec l'AME. Donc l'AME fait face à l'Association malienne des expulsés, dont on avait reçu ici le président, c'était au moment de l'occupation à l'Opéra Bastille. Hein, donc, et en plus, on voit que c'est tellement n'importe quoi ces expulsions. Donc on rencontre un Angolais qui a été expulsé au Mali dans l'album. Pourquoi est-ce qu'on envoie un Angolais au Mali? Sûrement, je suppose que le consulat du Mali lui a délivré un visa, un laissez-passer, l'a reconnu comme malien. Il y a beaucoup, beaucoup de Maliens qui ont été expulsés d'Angola. Le président de l'AME, quand il était ici, nous parlait d'un Népalais qui était coincé à Bamako et qui devenait fou. Donc, c'est des situations qu'on rencontre aussi. Et elle fait un boulot vachement intéressant.
Et donc, moi, je me souviens du débat qu'on avait eu donc à l'Association malienne des expulsés à Bamako, parce qu'on avait été reçus par eux, on avait fait la projection des DVD du collectif 12 et de l'occupation de l'opéra, des marches devant l'Opéra Bastille, etc. On avait réussi à faire une soirée là-dessus, on avait fait un débat derrière. Et l'un des buts de l'association, qui est très politisé, c'était d'essayer de réhabiliter les expulsés, les Maliens expulsés. Alors moi qui ne suis pas militant, moi je voyais ça comme une espèce d'utopie incroyable, quoi. C'est-à-dire que non seulement ils voulaient, donc ils accueillaient les Maliens expulsés de France notamment, mais ils voulaient réviser le procès qui avait eu lieu en France, quoi. Et donc ils voulaient faire une espèce d'international juridique pour mettre en contact les avocats qui sont souvent des soutiens ou militants, etc., pour essayer de revenir en arrière et de faire réviser le procès qui avait eu lieu, le jugement hâtif souvent, qui avait fait qu'on avait expulsé ce Malien.
Voilà, hein, et là, donc, tu parles dans l'album de quand même deux personnes que l'AME a réussi à faire revenir en France.
Ah oui, non, mais ils ont eu des succès. Enfin, je veux dire, évidemment, le gros des troupes reste un petit peu en errance à Bamako. Ils sont aidés au niveau concret, au niveau médical et au niveau de l'accueil. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des succès, heureusement. Hein.
Oui, et parmi les succès, là, ça n'apparaît pas dans l'album, mais une des personnes qui a été rapatriée, qui a pu revenir en France, c'était justement dans le cadre, je crois, d'un conflit du travail où il y avait un procès au prud'homme, il fallait qu'il soit présent au procès. Et que s'il n'était pas présent à ce procès, et il a fini par gagner son procès d'ailleurs. Je ne sais pas si tu te souviens, si ça te rappelle quelque chose.
Non, non, mais c'est vrai que l'Association malienne des expulsés est aussi présente au Forum social mondial et qu'ils font un énorme travail. Effectivement, eux, ils défendent constamment l'idée de la liberté de circuler. Évidemment, c'est comme ça que s'appelle l'album, mais je pense quand même que quand on lit cet album, on voit jusqu'à quel point la liberté de circuler est fondamentale. Enfin, ça devrait être un droit absolu pour tout individu, où qu'il aille et d'où qu'il vienne. Voilà, parce que tout le reste est un système injuste et inégalitaire.
Et de toute façon, la liberté de circuler, c'est l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Liberté de circulation, liberté d'installation et... quiconque empêche cette liberté, finalement, ou restreint cette liberté, est en contravention avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Peut-être qu'en attendant Madassa, qui devrait être tout près maintenant, on peut réécouter Diolène. Diolène, c'est chanté donc par une chanteuse qu'on a déjà reçue ici, d'ailleurs, qui s'appelle Madamba, et peut-être que ça va le faire venir plus vite. Donc, on écoute Diolène.
Thank you.
Alors vous êtes toujours à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net partout dans le monde, hein, pourvu d'être doté d'une connexion internet suffisamment rapide. Et, donc Madassa vient d'arriver, bonjour Madassa. Hein, donc Madassa vient d'arriver, on parlait de toi jusqu'à maintenant et surtout de liberté de circuler, mais maintenant c'est toi qui vas avoir donc la parole, hein, puisque tu vas nous raconter comment tout ça s'est arrivé jusqu'à la publication de ce livre et après.
Ok, merci à tout le monde. Bon, je vais vous demander d'excuser de mon état. Voilà, bon...
Vas-y.
Voilà, bon, je m'ai acheté à Saint-Poitiers. Ça, c'est la deuxième fois que j'ai parlé de cette radio. Bon, j'ai déjà expliqué les joutes que j'ai fait avec notre groupe de Saint-Poitiers. Bon, du coup, j'ai rencontré tous ces gens-là. J'ai fait un voyage.
Voilà, donc maintenant, Madassa.
Voilà, bon, du coup, j'ai voyagé avec Brooks, c'est un dessinateur, qui était organisé avec le collectif Oudouche. Bon, on est parti à mon pays qui s'appelle Mali ou Bamako. Après Bamako, on descend jusqu'au village à moi. Voilà, je suis très content de trouver ma famille voilà, qui a été absente de moi 11 ans. Voilà, j'ai fait 11 ans en France sans papier. Après des régularisations, j'ai travaillé un an. Après, j'ai rentré au village avec Brooke. Tout le monde était content d'avoir que je descends avec un Français chez nous. Et voilà. Bon, Brooke, il avait travaillé dessus des histoires à moi et mon village. Toutes mes familles, tous les gens des villages aussi. Ils sont tous très contents. Moi aussi, j'ai très content d'avoir des choses comme ça. Merci.
Ah, mais donc, d'abord, pendant les 11 premières années, tu n'as pas eu n'importe comment tes papiers. Ça a été quand même une grande lutte.
Oh.
Beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'angoisse.
Ça, c'est vrai. Bon, moi, j'ai eu beaucoup de souffrances parce que j'étais, depuis en 2002, j'ai commencé à avoir un problème au niveau des papiers. J'étais arrêté en 2002. J'ai fait 15 jours en garde à vue à l'aéroport, centre de rétention. Après, je sors là-bas, il m'a libéré, j'ai continué à travailler. 2005, j'étais arrêté à la fin de 2005. Bah, j'ai fait 3 mois en prison fermée. Après 3 mois en prison fermée, j'ai eu 5 ans d'interdiction jusqu'à la fin de 2012 que j'ai le droit de finir l'interdiction que j'ai eue. Bon. Tout ça, grâce à tout ça, j'ai eu des gens qui sont mis en grève avec la CGT. Je suis mis avec les gens là, j'ai fait des grèves. J'ai fait 2 ans de grève. J'ai fait beaucoup de difficultés dans la grève aussi en 2007. Avant des grèves, en 2007, j'étais arrêté. Bon, ça, c'est pas longtemps. J'ai fait 2 semaines pareil. Bon, j'étais en grève. J'ai fait 2 ans. Après 2 ans, on a eu que le 6h du matin, des CRS viennent nous vaquiller dans le locaux qu'on a fait 2 ans dedans. Bon, après de vacuation, on a fait 2 semaines devant la porte. Après 2 semaines, encore 6h du matin, il vient avec 6 camionnettes de CRS. Il nous fait dégager là-bas aussi. On était à droite, à gauche. Tout ça, c'est la merde, quoi. Bon, après tout ça, Dieu merci, on était à droite à gauche grâce à la CGT, le collectif, tous les gens qui soutenaient des sans-papiers. Ils nous blessaient à droite à gauche, surtout au collectif Oudouche. Après tout ça, on est arrivé encore à Bastille. Bastille, on a fait peut-être 1 mois, Bastille. Bon, Bastille, on dit qu'on est gagné. Bon, on continue toujours, on n'est pas eu des reproches. Ils vont nous montrer qu'on a des papiers parce que le dossier n'a pas été déposé, rien de tout. Bon, après le dossier qui est déposé, moi j'ai eu des refus, il m'a rejeté. Après des rejetés encore, j'étais avec le collectif Oudouche, on a eu un avocat de OSF. Bon, moi j'ai expliqué les problèmes, j'ai dit que j'ai des interdictions. Bon, du coup, l'avocat il a expliqué les problèmes, c'est ce qu'on doit le faire. On a fait ces choses. Bon, du coup, au bout d'un mois encore, il m'a convoqué. Il m'a convoqué. Bon, du coup, j'ai eu mon papier de respicé de 3 mois, autorisation de travailler. Voilà, bon, tout, après tout ça, j'ai travaillé encore un an pour rentrer au pays. Ça fait en tout total, ça fait 11 ans absent de mon pays.
Et donc, ces 11 années-là, on peut retrouver toute une partie de ce que tu dis là dans les deux, au moins dans Liberté de circuler et dans Ici, on prend du noir. Hein, on retrouve ces différents moments avec des dessins de Brooke que j'aime beaucoup, où on te voit tomber du filet des gens qui vont être expulsés et qui a un superbe dessin.
Bah, Liberté de circuler, dès que j'ai eu mon papier, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu de contrôle qui demandait monsieur, s'il vous plaît, votre papier, votre carte, votre identité. Bah, dès que j'ai pas de papier, j'ai eu des contrôles 4 fois même. Mais dès que j'ai régularisé, j'ai pas eu dans la circulation, monsieur, s'il vous plaît, votre pièce d'identité. Vraiment, ça, c'est pas la même que de tout. Quand tu es sans papier, tu as grand souci, mais dès que tu es régularisé, ça va quoi. Voilà.
Et est-ce que, Bénédicte, je vois que tu voulais dire quelque chose, tu voulais réagir tout à l'heure. Non. Oui, attends, on va passer le micro.
Oui, ce que je voulais dire, oui, c'est que voilà, c'est un parcours, c'est à la fois le sien et en même temps, il est représentatif. Il a fait donc 4 fois de la prison, dont une fois en prison ferme, c'est-à-dire dans un centre de... pas un centre de rétention pour étrangers, hein, c'était à Lyon. Donc voilà, on voit bien que le droit n'est pas respecté, qu'il y a vraiment un problème vis-à-vis des étrangers, de la régularisation, des expulsions, des enfermements qui sont gravissimes. Et je suis d'autant plus en colère que ça continue aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a une circulaire Valls qui permet de régulariser plus facilement que les choses ont vraiment changé pour les étrangers qui demandent à avoir des titres de séjour. Pas du tout. Et d'ailleurs, l'accueil et les délais d'attente dans les préfectures sont pires que jamais.
Voilà. Et d'ailleurs, la circulaire Valls, c'est pas vraiment pour régulariser. On a pu penser à un moment que c'était pour régulariser plus facilement, quoique, mais c'est surtout pour ne pas régulariser plus facilement de la part des préfectures, hein, la circulaire Valls. Quand on voit maintenant, avec quasiment 6 mois de recul, voilà. Et donc ce voyage, tu es régularisé. Et donc, après tout un combat qui est raconté à la fois sur un mode impersonnel, puisqu'au début, tu apparais comme personnage de la lutte progressivement. Hein, c'est dans le deuxième album, ça va être un peu plus centré sur toi. Et dans le troisième, complètement centré sur toi. Donc, tu finis, tu es régularisé. Et bien sûr, tu retournes au Mali. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce premier voyage au Mali et avec Brooke qui regarde tout, qui est...
Voilà, avant de vous dire... des choses dans mon voyage, je vais vous dire que moi j'ai régularisé, mais toujours j'ai avec les autres qui n'ont pas encore été régularisés, parce que j'ai eu les souffrances que j'ai eues, je connais très bien. Tant que t'as pas de papiers, toujours t'es dans la merde, surtout 2 ans ou 3 ans en grève. Dès qu'on a arrêté, toujours il y a des gens qui sont pas régularisés, toujours là avec la CGT. Voilà, bon, on souhaite d'avoir leurs papiers dans leur poste grâce à tous ces mouvements. Je souhaite aussi lui prendre la courage avec tous les sans-papiers et la CGT et tous les collectifs. Bon, moi, j'ai rentré chez moi de mon voyage. Vraiment, le premier jour que j'ai rentré, vraiment, je n'arrive pas à dormir de tout, parce que j'ai vu les gens, ça ne va pas, quoi. Voilà, bon, je ne peux pas vous expliquer comme quoi, et voilà. Bon, de toute façon, j'ai très content, j'ai eu ma famille. Le premier jour que j'ai descendu au village, c'était choquant pour moi, parce que 11 ans, c'est trop. J'ai eu ma mère, la première femme de mon père, elle était décidée derrière moi, elle est morte. Bon, ces jours-là, on était pleuré, tout le monde, il était choqué, bro, qui est en train de dire qu'est-ce qu'il y a, tout. Il ne sait pas quoi, mais après, je lui ai expliqué. J'ai vu aussi mon grand frère, il y a des grands frères, j'ai vu un qui était à Gabon, plus de 12 ans, excuse-moi, je n'ai pas vu. Bon, j'ai trouvé ça devant moi là-bas, j'étais très content qu'il est marié, il a 2 enfants, voilà. Bon, mon grand frère, le premier frère de mon père qui vient me chercher à Bamako, voilà, J'ai eu lui aussi, j'étais très content. Toute ma famille, tous les gens des villages. Surtout, je descends avec un, comme il, le sonning qui dit, Tibabou, je descends avec un Tibabou chez nous. Il est très, très content d'avoir ça.
Voilà. Voilà, et donc maintenant, tu peux aussi nous reparler un petit peu de l'arrivée, ce qu'on n'avait pas du tout parlé, de l'arrivée au village et de l'arrivée dans la famille de Madassa. Et donc, toi, Brooke, c'était comment ?
Moi, j'ai pris en pleine gueule quand même, parce que moi, j'avais jamais mis les pieds en Afrique, hein, déjà. Je savais pas où j'arrivais. J'avais compris qu'on arrivait déjà à Bamako dans la famille, mais les familles sont très grandes quand même là-bas, quoi. Donc j'ai mis du temps à comprendre qui était qui. Au fur et à mesure, moi j'avais toujours un crayon et puis des feuilles pour noter, pour interroger des gens qui parlaient français, parce que tout le monde ne parle pas français, évidemment. Ceux qui ont migré au Gabon ou en France parlent français, mais par exemple les femmes ne parlent pas français. Enfin, j'ai rencontré peut-être au village une seule femme qui parlait français. Pourquoi ? Parce que déjà, à 98% des fois, elles ne font pas d'études qui leur permettent d'aller à l'école française, c'est-à-dire d'apprendre le français aussi à l'école, et elles ne migrent pas. Ou alors, quand elles migrent, elles s'installent en France. C'est différent. Enfin, moi, je ne connais pas toute l'histoire non plus, hein, des migrations, femmes, hommes, etc. Mais ce que je sais, c'est que là-bas, moi, j'avais un manque, c'était de pouvoir interroger les femmes. J'ai réussi au village, quand même. Mais disons, dans la famille à Bamako, c'était très différent que l'arrivée au village. À Bamako, il y avait une certaine aisance. Plusieurs familles habitaient dans la même maison. Effectivement, chacun avait un boulot. Donc, il y avait une relative aisance. Au village, ça a été très différent. Au village, les sécheresses successives, les difficultés pour trouver du boulot, etc. Des migrants qui étaient revenus sans trop d'argent. On sentait une autre difficulté de vivre au village que je n'avais pas ressenti à Bamako. Parce qu'à Bamako, moi, j'étais un peu... évidemment protégé dans cette famille-là. Hein. Donc voilà, donc l'arrivée au village a été encore plus un choc pour moi et un choc émotionnel, parce que moi j'ai vécu, ce qui est un privilège incroyable, c'est que l'arrivée de Madassa 11 ans après, moi j'ai vécu ça, je m'en suis pas remis encore, hein. C'est quand même une émotion incroyable. Hein.
Madassa ?
Voilà, ça aussi, je vais vous dire un truc à ce niveau-là, parce que les moments que moi j'étais là-bas, on fait que des écoles arabes, on appelle ça madrasa. Bon, du coup, j'ai trouvé qu'ils ont commencé à changer un peu. Les gens font des écoles arabes et des français aussi, on appelle ça franco-arabe. Bon, il y en a qui partent jusqu'à côté des villages, 4 km, là-bas, ils s'appellent Lakamane. Ils font des écoles françaises là-bas. Il y a que des écoles françaises là-bas. Mais au village, il y a on a des difficultés, même si tu continues à faire des écoles à Lakamane, à la fin de compte, c'est trop loin et puis il fait chaud aussi. De marcher à pied tous les jours, aller-retour, ça fait. C'est trop, quoi. Bon, du coup, j'ai eu des grands sentiments pour ça, parce que le village aussi, on a commencé de organiser pour avoir une école là-bas. Tout ça, c'est les gens qui sont aventurés à Paris ou à France. Et à Gabo, excuse-moi, à Gabo, voilà, on cotise, on est en train d'essayer de construire une école chez nous-mêmes. Bon, au niveau des centres de santé aussi, c'est une petite difficulté. Je trouve une petite 2 chambres ou 3 chambres comme ça, qu'il n'est même pas assez des médicaments. Moi, j'étais tombé malade là-bas. Vraiment, c'était très, très difficile parce que je rentrais avec un panari en France. Je n'avais pas soigné là-bas, mais bon, parce qu'on a des mal. Quand tu es tombé malade, il faut qu'il te ramène jusqu'à Bamako. Bon, si c'est une maladie grave, ça ne va pas du tout, quoi. Voilà.
Alors, je te coupe. Tu dis aller à Bamako. Et aller à Bamako depuis le village, c'est quoi ? C'est combien de temps ? Quel moyen de transport ? Depuis la porte de la maison jusqu'à la porte de l'hôpital à Bamako ?
Ah, c'est trop loin. Hein. Faut compter 5h, 6h en route. Parce que de quitter chez nous pour arriver à Lakamane, peut-être 30 minutes ou on dit 1 heure, quoi. Bon, après Lakamane...
Avec quel véhicule ?
ben ça n'est pas parce que s'il n'y a pas de véhicule, ils te ramènent en moto ou en charrette.
Ouais, en charrette, voilà. Charrette ou moto.
Voilà.
Donc bien pour transporter le malade.
Ouais. Zouka Bamako, ça aussi, il faut attendre des cars qui viennent des cahiers. Bon, si vous avez la chance, du coup, il y a chaque 3 heures ou 4 heures, il y a un car qui passe. Bon, si vous avez le plus de chance d'avoir une place et pour rentrer à Bamako, c'est toujours là, peut-être jusqu'à 18 heures ou 20 heures.
Voilà. Donc, c'était quand même dire qu'aller à Bamako, c'est quelque chose.
Ouais.
Alors du coup, je rebondis sur ce que dit Madassa, parce que voilà, comme une fois de plus, Brooke laisse une bonne partie de ses droits en soutien au mouvement de soutien, au comité de soutien des travailleurs sans papiers, eh bien, Madassa souhaitait pouvoir reverser une partie, et je pense que le collectif 12 est tout à fait d'accord, au village, en contribution pour la création de cette fameuse école, participer à leur projet. Enfin, c'est lui qui va organiser ça, il va créer une association, et ça permettra au collectif 12 voilà, de faire une donation sur les sous qui sont récoltés. Parce que je pense que c'est un projet qui lui tient très à cœur, puisqu'en fait, ce sont les migrants hein, qui organisent avec... ils cotisent, ils font des caisses, et l'école, c'est eux, le centre de santé, c'est eux, la mosquée, c'est eux, enfin, tout ce qui est un peu collectif là-bas, c'est eux. Je ne sais pas où est l'État malien.
Oui, donc, effectivement, c'est l'idée de Madassa de... Alors, soit... alors, le problème, c'est qu'il faut le vendre, quoi, maintenant. Donc, effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un coût d'impression et il y a un prix de vente. Donc, voilà. Donc, c'est 10 euros pour les particuliers. Et il y a aussi... Alors, ça, c'est Bénédicte qui peut peut-être en parler. C'est-à-dire qu'il y a aussi... un prix de 5 euros pour les collectifs, c'est-à-dire que les collectifs de soutien aux sans-papiers ou d'autres mouvements sociaux aussi, hein, il n'y a pas que les collectifs de soutien sans-papiers qui peuvent être intéressés. Donc voilà, donc effectivement, pour récolter ce qui est au-dessus du coût d'impression, c'est-à-dire 2 euros, il faut essayer d'en vendre un maximum pour essayer de récolter... bon, c'est un tirage assez faible, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Mais c'est vrai que nous, on est partant... pour pousser à vendre, c'est-à-dire à ramasser un peu d'argent pour le village, on est prêt à participer à des événements militants, culturels, artistiques, etc., où le fait de dédicacer le bouquin, il part un peu plus facilement. Enfin, voilà, donc, effectivement, ça, c'est évident. Voilà, Bénédicte, je te passe la parole, parce que toi, tu... Voilà.
Oui, alors, Brooke est formidable. Il est prêt à se déplacer, à venir dédicacer. Il fait aussi des super ateliers pour, en particulier, les enfants. Il a un très bon contact avec les enfants, mais pas que. Et donc, sur le livre, il est marqué où on peut les commander. Alors, pour les collectifs, les mouvements, les groupes de soutien, mais aussi les syndicats qui ont envie de diffuser ce livre, cette très très belle BD, hein, vraiment il a fait un boulot formidable, Brooke, et Madassa a eu beaucoup de courage de partir et je sais qu'il y a une pudeur très importante chez les Africains qui n'aiment pas tellement se mettre en avant. Bon, là il a fait l'effort, Madassa, d'être le héros de cette bande dessinée. Donc on peut les commander donc à 5 euros pour les commandes à partir de 10 exemplaires. Il suffit d'envoyer un mail à fleur de pavé sans accent en un seul mot, fleurdepave@wanadoo.fr ou auprès de Brooke, bien sûr. Alors c'est lionel.brooke@wanadoo.fr. Voilà. Et donc n'hésitez pas à commander à l'unité ou en plusieurs exemplaires à partir de 10. On se débrouille pour les faire circuler. Et je voulais dire aussi que on va donc envoyer à l'étranger et en particulier à l'association malienne des expulsés et aussi au village et aussi à l'école à la Kamané, qui est l'école, on va dire, un peu au-delà du primaire, à côté du village, où c'est une école en français de l'État, hein. Et qu'on peut envoyer aussi les BD à l'étranger pour ceux qui veulent en faire des commandes importantes, enfin à partir de 10, Parce que figurez-vous qu'en France, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc je le tiens à le dire à tout le monde, c'est peut-être un scoop, enfin en tout cas moi je ne le savais pas, on peut envoyer des livres en français à l'international au prix de 1 euro le kilo, par paquet de 5 kilos maximum. Donc 5 kilos, ça fait 5 euros, il faut en profiter, c'est ce qu'on appelle le rayonnement culturel de la France.
Donc on peut faire circuler les bouquins, c'est une bonne chose, c'est plus compliqué de faire circuler les personnes, mais bon. Alors, moi, il y a quand même, donc là, je vois que l'heure, elle tourne, et que l'admission, elle est presque finie. Alors, on va peut-être continuer, il y a quand même plein de sujets que j'aurais aimé aborder dans cette émission, et qui sont tous des sujets qui sont traités dans l'album, et notamment à partir, donc j'aurais aimé poser des questions à tous les deux sur un certain nombre de personnages qu'on rencontre, des gens qui ont quitté et qu'on rencontre dans ce livre, dans cet album, mais ça, je crois que ça va nous obliger à refaire une émission, parce qu'il y a aussi un sujet et qui est récurrent tout le temps, c'est comment parler là-bas d'ici. Et en même temps, moi, je me pose une question, c'est que énormément de gens là-bas, je le mets entre guillemets, hein, parce que là-bas sont aussi des gens d'ici. Donc c'est un espèce de truc qui me paraît tout à fait surprenant. On n'en parle pas, mais en même temps il y a un grand implicite parce que tout le monde sait, mais il y en a qui ne savent pas. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué, peut-être un petit peu compliqué, qui serait intéressant d'éclaircir. Là, je crains qu'on n'ait pas le temps de le faire maintenant. Il y a aussi donc parmi des personnages qu'on rencontre, et dans ce village où il n'y a pas d'électricité, il y a une radio. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé aussi. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Hein, j'ai l'impression qu'il ne nous reste plus rien du tout. Mais donc oui, voilà, notre émission est maintenant terminée. Et donc on va se dire au revoir. Hein. Donc merci Madassa d'être venue. Merci Bénédicte. Merci Brooke d'être revenu.
Merci Yves de ton accueil. Hein.
Voilà. Ouais, merci. Et merci Bobby d'avoir assuré la technique. Et donc, il est temps maintenant de retrouver au fond près du radiateur. Et s'ils ne sont pas là, on peut se quitter. On peut se quitter sur, par exemple, Sandio Demba, c'est Gudia Kouate. Hein, Sandio Demba. Alors, pour Au fond du radiateur, hein, ce sera une rediffusion, on vient de me demander. Je m'inquiétais un peu de ne pas les voir s'installer dans le studio. Et j'ai oublié d'annoncer le vide-grenier de FPP, hein, vente de livres et de disques d'occasion. Ce sera le dimanche 9 de 10h à 19h dans les jardins de FPP, 1 rue de la Solidarité. Voilà, et moi je vous dis donc au revoir et à demain pour une émission RESF. Baba fa ban tun kan yugo nya.